Amateurs de phénomènes en tout genre, bonsoir. Si vous aimez comme moi arpenter les pistes de danse, eh bien il vous est sans doute déjà arrivé de vous trémousser sur les musiques disco-funk du groupe mythique Boney M. Il n'est donc pas impossible que le nom de Rasputin vous soit familier. Mais avant d'être un tube, Grigori Rasputin était un Russe au destin aussi incroyable qu'empli de mystères. Du fond de la Sibérie jusqu'aux plus hautes sphères de la société, la vie de cet homme fascine. Tantôt considéré comme un prophète, tantôt comme un charlatan, il est rare que ce personnage laisse indifférent. Antéchrist, influenceur politique, guérisseur, érotomane, autant de rumeurs qui font partie de la légende de Rasputin et qui seront dans le dossier du jour de Phénoména.
Il s'agit de constater un phénomène.
Quel est donc ce mystérieux phénomène ?
Des bruits bizarres.
Bizarre, comme c'est étrange.
Une sorte de microcosme des phénomènes surnaturels les plus variés.
Tout deviendra étrange.
On peut s'interroger, on peut se demander ce qu'il y a derrière ces apparences, derrière ces images d'épinal.
Bon, enfin là, vous avez quand même les bizarres, vraiment bizarres.
Bizarre.
C'est le reste du monde qui est bizarre.
C'est hyper bizarre. Mais bizarre, ça ne veut pas dire qu'il vient d'ailleurs.
Ce soir, pour parler du mythique Rasputin, je reçois deux invités qui auraient aussi pu être des conseillers de la famille Romanov, tant leurs avis sont éclairés. Quentin et Alexandre.
Ouais, plutôt éropophile ou je sais plus quoi.
Bonsoir Dimitri, merci de toutes ces éloges.
Bonsoir. Comment allez-vous messieurs?
Très bien. Et toi ça va?
Très
toi,
bien, tout également.
Ben moi ça va aussi, hein. Ça va aussi, je suis bien enthousiaste pour cet épisode sur Rasputin que je trouve absolument fascinant.
Et puis...
Ouais. Ouais, excitant.
Ouais, non, j'avais
aussi.
Rien à dire de plus et j'ai dit et puis.
Merci Alexandre pour cette intervention magnifique.
Toujours là pour aider.
Alors ma première question est simple, qui est Rasputin et d'où vient-il?
Bonne question. Alexandre, tu as peut-être envie d'y répondre.
Bon, on peut commencer par dire que c'est un personnage qui est né autour des années 1870, là aussi on n'est pas super sûr.
1869 j'ai vu.
Ouais voilà. Mais...
année érotique.
J'ai,
hein.
J'ai vu que c'était, alors oui, bien avant l'heure.
Oh, et j'ai... un siècle en avance.
Est-ce que ce n'est pas une préparation paiement? Ok, très bien.
Peut-être.
Laissons un tomber. Bon mot de Dimitri qui ne nous laissera pas indifférents.
Exactement.
Alors, donc, ce personnage est donc né en 1969.
Voilà, et, alors, si vous connaissez pas trop le personnage, à la base c'était juste un modeste pèlerin russe venant d'un village reculé de Sibérie.
Oui.
Et au départ, il était surtout décidé à consacrer sa vie pour la religion, la méditation et le vagabondage.
Et c'est vrai.
Voilà. Et c'est durant ses premières années d'errance, où il va un peu se balader dans toute la Russie en partant de la Sibérie, qu'il va accueillir une réputation d'homme saint, de guérisseur et même parfois de prophète.
Bah, j'ai vu la même chose. Et en même temps, j'ai vu que dans l'ancienne Russie, on considérait les vagabonds, enfin, on considérait comme prophètes les ermites et les vagabonds.
Mmh,
et donc, voilà. En Russie, il est bon d'être SDF. Et du coup, en tout cas, sous l'ancienne Russie.
Du coup, il devait y en avoir pas mal.
Je pense.
Et moi, j'avais vu aussi que pendant cette période d'errance et de vagabondage, Rasputin a carrément disparu des radars. Personne ne sait ce qu'il a fait pendant 3 années. Donc,
En même temps, ça devait être facile parce que. On va dire que peut-être l'administration et l'état civil russe n'étaient peut-être pas très efficients à cette époque.
Très à jour, et puis même maintenant, je pense que pour ratisser toute la Sibérie, ça doit être assez compliqué. Vu la
surface. Un petit peu, oui.
Donc il devait être assez simple de se cacher ou d'aller de village en village sans qu'on sache vraiment qui t'étais.
Oh bah bien sûr.
Effectivement.
Surtout à cette époque.
Alors moi j'ai du coup une deuxième question qui va, disons, mobiliser un peu plus de notre temps, puisqu'en fait, la légende de Rasputin s'est surtout construite à partir du moment où il est devenu un peu conseiller de la famille Romanov, donc la famille tsarine, et du coup j'aimerais savoir comment il en est arrivé à devenir un proche de la famille Romanov.
Alors je sais pas toi Alexandre si tu as vu des, si tu as lu des choses là-dessus, mais...
Alors au niveau de son placement sur la famille impériale, non pas du tout.
Non pas du tout, parce que j'ai vu du coup qu'en quittant la Sibérie, il est allé s'installer à Saint-Pétersbourg, donc la capitale impériale de la Russie à cette époque, et il a commencé à se rapprocher donc il s'est inscrit à l'académie de théologie, et c'est ainsi que l'évêque Hermogène et le prédicateur Héliodore fasciné par la foi, sa foi, la foi de Rasputin, pas son foi, la foi de Rasputin, ont commencé à le faire pénétrer dans la haute société saint-pétersbourgeoise. Et c'est comme ça que petit à petit, il commence à entrer dans les cercles de plus en plus proches de la famille Romanov. Parce qu'en plus de ça, donc, cette famille Romanov, donc la famille impériale, vivait un drame très important, puisqu'ils avaient un fils, le seul héritier pour le moment, le seul héritier connu de la couronne impériale, et il était hémophile, donc il saignait beaucoup. C'était une maladie incurable à l'époque, et seul Rasputin a réussi à faire en sorte que l'état du prince héritier s'améliore. Mais donc, à chaque fois que Rasputin allait voir ce gamin, eh ben, il allait beaucoup mieux, à chaque fois.
En fait, il s'est introduit à la cour tsarine en étant un peu guérisseur et en arrivant, voilà, grâce à ses connexions divines ou à ses talents de prophète magicien, à soigner le l'héritier de la couronne, quoi.
Bien sûr, il a soigné l'héritier et du coup, il a carrément sauvé la couronne impériale de Russie, puisque personne, aucun médecin, même les plus qualifiés, ne savait comment faire pour soigner ce pauvre... je ne sais plus comment il s'appelle, l'héritier.
Félix.
Félix. Ouais. C'était Félix.
Ah, c'était Félix.
Comme le chat.
Ah oui.
Oui, oui.
Ok, très
Félix. Bien. Et Youssoupov, c'est lui. Non, parce que j'ai vu Félix Youssoupov, c'était un prince, mais ce n'était pas le prince héritier.
Si,
ah, c'est lui.
Exactement.
Ah, très bien, d'accord.
Ok. Ouais. Donc on sait que ce personnage était assez mystique. Quelles sont les légendes les plus connues autour de Rasputin?
Bah alors oui, il y avait cette réputation de guérisseur que Quentin a bien détaillée. Bon, même si on pense aussi que ces événements de guérison partielle du jeune homme, ça serait sans doute venu du fait que Rasputin avait compris un peu les effets des médications anciennes qu'on donnait au jeune homme pour arrêter ses douleurs intempestives, ouais. Et qui, comme les traitements d'aujourd'hui antidouleurs ont une fâcheuse tendance à fluidifier notre sang, donc l'arrêter, ça devait... Bon, c'était sans doute pas très recommandable pour le jeune homme, et Rasputin l'avait sans doute très bien compris et faisait peut-être passer ça pour de la guérison, qui sait.
Oui, c'est plus de la synchronicité
En tout cas, c'est l'explication la plus probable qu'on a là-dessus, mais on prête également à Rasputin des dons de divination. Parce qu'il aurait en effet prédit à la tsarine que, je cite, alors selon une traduction peut-être approximative.
Sans doute ton plus bel accent russe.
Non, ça sera en français, je vais peut-être pas faire ça. Oh, je vais pas faire cette insulte aux Russes quand même. Mais en gros, il lui aurait dit qu'il mourrait dans d'atroces souffrances et qu'après sa mort, son corps n'aurait point de repos. Il lui aurait prédit qu'ensuite elle perdrait la couronne, qu'elle et son fils seraient massacrés ainsi que toute la famille impériale et qu'après un déluge terrible passera sur la Russie et elle tombera entre les mains du diable. Alors cela n'aura pas manqué vu que il est mort en 1916 et un an plus tard nous avons la révolution du diable rouge du bolchevisme.
Exactement.
Qui s'est abattu sur la famille royale
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi la couleur rouge.
Et c'est peut-être pour ça. Peut-être pour symboliser le diable.
C'est pour ça qu'ils ont massacré la famille Romanov. Alors, Yekaterinbourg.
Encore une fois, quand on sait que Rasputin était très influent dans le milieu, on peut se douter qu'une révolution n'arrive pas comme ça sans qu'on le sache. Peut-être aurait-il entendu parler de cette révolution qui semblait gronder de plus en plus et il aurait prédit la fin de l'Empire russe.
Il était très au fait de l'actualité, finalement.
Ah, peut-être qu'il
savait... Il lisait beaucoup le journal.
Peut-être qu'il savait se placer où il fallait pour...
Senti le vent tourner et que du coup il a fait une espèce de prédiction.
Le vent tourner ou alors des informations qui arrivent à ton oreille...
Surtout à Saint-Pétersbourg, il y avait Lénine, vu que c'était la capitale, on pouvait être au courant de tout, je pense, très facilement. Surtout en étant Rasputin, pouilleux comme lui il était.
Et puis surtout quand on couchait un peu dans toutes les sphères de la société.
Ouais, c'est vrai,
Quentin, ça
fait aussi partie de la légende de Rasputin, du coup, Quentin.
Exactement, que c'était un homme à femme, hein, il était très. Il était réputé pour ses parties fines dans ses appartements privés avec combien de femmes, au moins 10 000 selon la police, 500 selon les syndicats. Étrangement, cette fois, le chiffre change. Mais...
Et une bonne blague sur Radio Wilson ce soir.
Ouais, on est très motivé aujourd'hui sur Radio Wilson. Non mais oui, c'était un homme à femme très...
De notoriété, quoi, publique.
Ouais, de notoriété publique, oui. Il est... c'est même à se demander si c'était pas l'amant de l'impératrice de Russie.
Ouais.
La tsarine, je sais plus comment elle s'appelle. C'était pas Sissi, mais c'était pas non plus Anastasia. Mais c'était... une autre.
Ah, les références. Vous non, avez ouais, compris, ce soir à la table, que des experts. Hein.
Exactement, de grands experts sur Rasputin. Mais
des historiens. Hein.
Ah, oui, bah, oui, tout à fait, oui. On a tous au moins deux ou trois thèses d'histoire derrière.
Exactement, exactement.
Mais Rasputin, il aimait bien faire du spiritisme aussi, j'ai vu ça. Il organisait des soirées de spiritisme, il invitait beaucoup de ministres, et surtout les ministres de l'Intérieur.
Ah ouais.
Le chef de la police russe aimait beaucoup le spiritisme avec Rasputin.
En même temps, c'était quelque chose de très populaire à l'époque, le spiritisme, fin du 19e et début du 20e, c'était quelque chose d'assez répandu.
Je n'étais pas au courant.
Par exemple, Victor Hugo était très fan de spiritisme, je ne sais pas si vous
le savez. Ça ne l'a pas empêché d'écrire de très bons livres.
Voilà, tout à fait. Mais après la mort de sa fille, Victor Hugo était très très fan de spiritisme. Ah. Très bien, donc nous revenons au sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mort, ou plutôt des morts de Rasputin?
Bah, comme tu veux, Quentin.
Vas-y, Alexandre, dis-nous ce que tu as vu.
Alors, bah, la mort, alors, sa véritable mort, dirons-nous. Selon la légende, Rasputin serait mort en 1916, du coup. Et en fait, c'est période où la Russie subit beaucoup de défaites militaires, en fait, contre l'Allemagne. Mm. Et l'opinion publique s'en retrouve assez chamboulée, parce que tout d'un coup, l'Empire perd un peu la face, avec toutes ces défaites militaires. Alors, comme à toute époque, hein, l'opinion publique cherche un coupable vite, et puis ça arrange un peu aussi la famille royale, parce qu'il faut quand même garder la face et puis trouver un autre coupable que soi-même.
Ah, c'est sûr que c'est pas la famille royale.
Donc l'opinion publique désigne Rasputin, hein, qui avait la réputation d'avoir beaucoup d'influence sur le couple des tsars.
Ouais, les deux, oui.
Et royale, aussi, et qui était accusé du coup d'espionnage au service de l'Allemagne. Et du coup, le prince de l'Empire russe, il organise une petite cabale, hein, contre Rasputin. Il l'invite chez lui à une petite sauterie en prenant soin d'empoisonner absolument tous les aliments qui vont être à sa destination et également son vin avec un maximum de cyanure. Donc il était censé quand même le tuer sur le coup.
En assez fait.
Normalement,
ouais.
Ça pouvait tuer 20 personnes aussi.
Assez rapidement. Selon les chiffres.
20 selon la police. Et
selon la police. Selon la... 72 selon les syndicats. Les syndicats protecteurs du cyanure.
Alors du coup, Rasputin s'installe à la soirée, il commence à manger, à boire, et puis toujours pas de mort.
Donc, ouais. Du coup, le vrai Tanguy.
Le vrai Tanguy. Et il est avec ses femmes, il est avec tout le monde, il s'amuse bien. Et le prince Félix, lui, ça commence à l'agacer un peu. Donc il saisit son revolver et puis il lui tire une balle dans le cœur à bout portant.
Alors, Prince Félix, qu'il avait sauvé.
Qu'il avait sauvé, mais bon. C'est ce que c'est la politique.
Les années passent.
Alors, et puis même les amis. Hein. Quand il suffit de garder le pouvoir, il faut bien faire quelques compromis.
Alors, fait.
Du coup, le prince, il se dit Rasputin est mort, il appelle un médecin. Le médecin va voir Rasputin. Rasputin respire encore. Alors, ils attendent un peu. Là, tout d'un coup, il se calme, il arrête de respirer. Ils le descendent à la cave. Et puis, quelques temps après, ils redescendent le voir. Et là, tout d'un coup, Rasputin se jette sur le prince et commence à essayer de l'étrangler.
Alors, trop fort.
Alors, un peu surpris, il tire des balles réflexes dans son corps à plusieurs reprises pour tenter de l'achever. La police rapprochée du prince lui met quelques coups de matraque bien placés sur le crâne.
Pour lui fracasser le crâne comme il faut.
Et puis là...
Je peux t'interrompre, ce que j'ai lu, c'est qu'à ce moment-là, en fait, pris de panique, les gens dans la cave remontent à l'étage. Et se disent
on va laisser agoniser.
On va attendre un peu parce qu'on va laisser qu'il meure quoi, carrément quoi.
Parce qu'il avait plein de balles dans le corps déjà.
Peut-être avait-il affaire à un démon.
Peut-être.
Qui sait.
Mais du coup, ils remontent à l'étage, ils attendent un peu, ils se calment, etc. Et après quelques minutes, ils redescendent à la cave. Et là, Rasputin a disparu.
Ah, ça, j'ai pas du tout vu.
Ah, j'avais pas vu ça. Non,
ouais, moi j'ai vu ça.
Parce qu'il me semblait qu'il avait directement jeté dans l'eau.
Oui, mais alors du coup, ils le poursuivent dehors.
Ah ouais.
Il le poursuit dehors, il remarque qu'il est en train de tituber, en train de s'échapper, et là il lui retire des balles dessus quoi. Genre vraiment le truc de fou.
Et là Rasputin il enlève sa veste et il y avait un gilet pare-balles en Kevlar.
Simplement. En fait c'était pour ça.
En fait la solution était simple. Non mais du coup je te laisse reprendre à partir du moment où.
Une deuxième fois une deuxième fois il regarde, il semble mort quand même, crâne fracassé, quelques balles dans le buste.
Ouais, puis 10 kilos de cyanure dans le corps aussi.
Et 10 kilos de cyanure dans le corps, donc ils se disent cette fois-ci il ne respire plus, on va l'emballer, on va le mettre dans la rivière. Hein. On va dire que c'est pas nous.
Tout à fait.
Donc il l'emballe, il l'envoie dans le fleuve de la Neva, un gros fleuve en Russie qui passe par Saint-Pétersbourg, et là, On le retrouve plusieurs. Mmh. Alors ça, j'ai pas trop de dates sur quand est-ce qu'il retrouve le corps.
Jours après, oui.
Mais je crois qu'on le retrouve assez rapidement parce que le corps est en assez bon état quand on le repêche en fait.
C'est ça qui est dingue aussi. Bah en même temps, il faut dire peut-être que l'eau était très froide et que.
Mais que ça conserve. Ce qu'il faut dire aussi à nos invités, c'est que Rasputin, donc du coup, comme c'était au début du XXe siècle, il y a des images qui existent de lui. Et notamment une image de sa mort, en fait, de son corps repêché, où on voit nettement qu'une balle a été tirée entre ses deux yeux. On le voit nettement sur la photo, quoi. On voit la trace de l'impact, etc., quoi. Mais du coup, vas-y, Alexandre, je te laisse finir.
Le corps est retrouvé, il l'examine, et puis là, il se rend compte qu'en fait, il est mort noyé, donc qu'il était encore vivant une fois jeté dans la Neva.
C'est-à-dire que même avec la balle entre les deux yeux, il n'est pas décédé de la balle, quoi. C'est assez, assez fou.
Non,
quoi.
Aucune balle n'a pu le tuer vraiment.
Encore une fois, c'était un acte aussi politique. Peut-on douter des documents officiels qui ont été posés sur Rasputin? Peut-être qu'il a été très diabolisé aussi, ce personnage, mais encore une fois, c'est très bizarre. Il est mort plusieurs fois, peut-être qu'il n'est pas mort. Pourquoi l'eau l'a tué et pas une balle en acier?
C'est vrai, il n'y a que la nature qui a pu le tuer, finalement.
Des questions qu'on peut se poser.
Alors moi j'avais vu aussi qu'avant tout ça, avant qu'il parte sur les routes et qu'il se tourne vers la religion, il vivait dans un petit village de Sibérie, donc vous l'avez dit au début de l'épisode. À la sortie de sa maison, une femme l'agresse, lui assène plusieurs coups de couteau, parce que cette femme était persuadée que Rasputin était l'antéchrist. Donc du coup, il a commencé très mal. Il a failli mourir. C'est un chirurgien qui lui a fait, qui l'a remis sur pied chez lui en fait.
En plus.
Et c'est après, à la suite de ces histoires, quelques années plus tard, qu'il part sur les routes, quoi. Donc c'est vraiment. Et en plus de cette mort un peu, où il est passé près de la mort déjà dans l'adolescence, quand il est sur les routes, il me semble qu'il est atteint d'une maladie. Alors j'avoue que je n'ai plus les détails, là j'ai du mal à retrouver mes sources, mais il est aussi atteint d'une deuxième maladie qui est sur le point de le tuer, et au final il en échappe aussi, ce qui contribue aussi un peu à la légende de Rasputin. D'ailleurs on le voit dans certaines images d'archives à l'hôpital, il y a plusieurs photos qu'on peut retrouver où il est dans une vêtu de tenue de patient d'hôpitaux, etc., où il fait des signes aux photographes.
Des signes positifs où il est finalement très en forme.
C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que cet homme était quasiment increvable, quoi. Il a fallu de l'acharnement, vraiment.
Ah, c'est ce qui fait de la réputation des Russes, hein. Surtout les Sibériens, ils sont increvables. Ils résistent à tout. Hein,
un petit shooter de vodka et puis la balle, elle passe toute seule.
Ah bah bien sûr. Et il la digère finalement.
Alors du coup, moi j'ai envie de vous poser la question, quel est votre avis sur le bonhomme? Parce que c'était quand même quelqu'un d'assez sujet à controverse.
Controversé, oui.
Alors moi je pense surtout, c'était quand même dans un contexte où la révolution grondait beaucoup. Selon les écrits qu'on peut retrouver, on va avoir tel ou tel point de vue sur la personne. Bon, sur les rumeurs des relations charnelles qu'il aurait pu entretenir avec l'impératrice, on peut aussi y voir une propagande anti-impérial,
par exemple, oui,
de la part du peuple, tout simplement, qui se révoltait. Il fallait bien aussi, mystifier la chose, comme tout grand mouvement populaire. Et moi je vois surtout un personnage politique, une image politique plutôt que peut-être un personnage réel. Et idem pour toutes ces autopsies qui ont pu paraître après, tous les documents. On aime bien faire des légendes avec des personnes d'exception aussi. Oui.
Surtout que, vu son apparence physique, en fait, il a été très instrumentalisé après par les révolutionnaires qui voyaient en lui une image un peu de diabolisme de la...
Le diable de l'Empire, quoi.
De l'Impérial. Ouais, voilà, exactement. Il y avait ce côté très, très sombre. Bah
avec le pouvoir
très...
qu'on lui prêtait, en plus.
Oui, exactement.
C'était un peu lui qui était aux commandes, au final. Ah, oui. Ils essayaient de donner un visage.
D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller chercher sur Internet. En tapant Rasputin, vous allez très rapidement tomber sur des images de propagande. Des révolutionnaires russes, on voit Rasputin sur une image comme un marionnettiste
avec le couple impérial.
Voilà, avec le couple impérial. Elle est très très cool d'ailleurs, cette illustration.
Mais ce qui paraît, le tsar n'était pas énormément influencé et influençable vis-à-vis de Rasputin, c'est de ce que j'ai lu. La tsarine était très influencée, mais.
Effectivement, on retrouve des correspondances entre le tsar et la tsarine où en fait on se rend compte que Rasputin n'était déjà pas si présent dans le couple. Et au final, le tsar disait à la tsarine non, ça tu le dis pas. Ça reste entre nous, etc., quoi. Donc il y avait quand même ce côté où au final on a amplifié son influence sur la famille.
C'est parce qu'on savait ce qu'il faisait avec
c'est une époque où le mystique avait beaucoup d'influence sur le peuple. Donc,
et puis vu la tête aussi qu'il avait, vu qu'il était
considéré comme un saint, je pense qu'il avait beaucoup plus d'impact sur l'esprit populaire en fait que les politiciens de l'époque, quoi.
Ouh, ça se pourrait, ça ne m'étonnerait pas.
Bon, en tout cas, moi, pour ma part, je suis complètement fasciné par le personnage, parce que de toute façon, il y a tellement de légendes et de tellement de choses, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a aussi des légendes entourant sa sexualité et même évidemment, sa composition.
Peut-être qu'il y en aura-t-il sur toi dans son temps.
Peut-être, peut-être. Écoute, je ne sais pas. Nous verrons. Hein. Nous ferons peut-être voilà. Un épisode de Phénoména dans 200 ans, si nous sommes toujours vivants.
Oh, ça va venir, sûrement.
Ben, en tout cas, merci messieurs de nous avoir fait vibrer en nous racontant l'histoire de Rasputin. C'est la fin de ce dossier consacré. C'est la fin de ce dossier consacré à Rasputin. N'hésitez pas de commenter sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez consulter le site de Radio Wilson et nous retrouver sur YouTube, SoundCloud et iTunes.
Abonnez-vous, mettez la cloche.
Bonne soirée, à bientôt.
Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine émission consacrée à la malédiction des Kennedy.
Ah mais oui.
En attendant, gardez les yeux ouverts. Vous pouvez dire bonne soirée aussi, messieurs. Hein,
pardon, oui, bonne soirée, excusez-moi.
Bonne soirée à tous les auditeurs parti, de Radio Wilson et de Phénoména.
On était déjà parti au bar.
Poutine, amant de la tsarine de Russie. C'était un drôle d'animal. Vraiment fou. Rasputin, la plus grande bête d'amour de Russie. Il se comportait éhontément. Non.
Tandis que dans le premier couplet, il nous est dit...